Bonjour à tous, bienvenue dans Be My Guest. Nous sommes en live sur Twitter, Periscope, YouTube, LinkedIn. Et je vois que j'ai un problème sur Facebook, malheureusement. Donc, voilà, donc nous sommes en live, je suis désolée pour ce petit problème technique. Donc, nous sommes en live sur LinkedIn, Twitter, YouTube et j'espère Facebook également. Vous pouvez partager, vous pouvez faire des commentaires. Et aujourd'hui, nous allons parler de formation des jeunes dans l'automobile. Le nombre fait peur, 1,3 million de jeunes sans emploi et sans qualification laissés sur le bord de la route. Ce nombre est d'autant plus inacceptable que des secteurs recrutent. C'est le cas de la filière automobile qui n'arrive pas à pourvoir près de 50 000 emplois. La formation est le cheval de bataille de l'industrie automobile. En effet, l'enjeu est de taille. L'automobile est en pleine transformation et pour la réussir, elle a besoin de jeunes qualifiés, agiles et motivés. À l'occasion de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, je suis heureuse d'accueillir trois acteurs de la filière qui, chacun dans son domaine respectif, luttent contre l'échec scolaire pour l'avenir de l'industrie automobile. Tout d'abord, je suis heureuse d'accueillir Xavier Oran, délégué général du CNPA, l'organisation nationale qui regroupe 21 métiers de l'automobile. Bonjour Xavier.
Bonjour Stéphanie.
J'accueille également Jean-Paul Lempereur, président du groupe Lempereur, chef d'entreprise qui représente 11 marques, 23 concessions, 420 collaborateurs. Bonjour Monsieur Lempereur.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Xavier.
Et enfin, je suis heureuse d'accueillir Laurent Roux, directeur général du GARAC, l'École nationale des professions de l'automobile, une référence depuis 72 ans. 1500 élèves formés du CAC au diplôme d'ingénieur. Bonjour Monsieur Roux.
Bonjour Stéphanie, bonjour Xavier, bonjour Monsieur l'Empereur.
Bonjour.
Alors, nous sommes en pleine semaine des services de l'automobile et de la mobilité, dont c'est la 6e édition. Il y a plus de 500 événements qui sont présentés dans toute la France. Donc, c'est une campagne de promotion de la filière automobile. Est-ce que, Xavier, vous pouvez nous en dire deux mots?
Ah. Tu commences par moi. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est génial. C'est ça qu'il faut dire. Une semaine, une grande semaine pour l'automobile, pour les services de l'automobile et de la mobilité. Moi, je trouve ça formidable. Dans le contexte actuel où on est accablé tous les jours, Jean-Paul en parlera sans doute tout à l'heure, où le moral des chefs d'entreprise, le moral des équipes, le moral des Français, la population est assez bas. On est dans une situation encore complètement incertaine, insaisissable, difficile. Anxiogène pour tout le monde. Et l'anxiété, elle est chez les familles, dans les familles, au sein des familles. Le repas du soir, avec les jeunes qui sont autour de la table, souvent des jeunes qui sont isolés, on en a suffisamment parlé ces dernières semaines, qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel, et qui, dans toutes les familles, chacun a peur pour ses enfants, ne sachant pas ce qui va se passer sur le plan économique dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Donc le contexte est extraordinairement anxiogène, la Covid continue à tout dominer et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser dominer. C'est pour ça qu'au niveau du CNPA, on a soutenu cette 6e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité pour porter un message positif en montrant que nos métiers sont en train de changer de manière radicale et que contrairement à ce que l'on peut penser, ils recrutent de manière massive. On a effectivement besoin de recruter 50 000 postes par an jusqu'à 2025. Il y a un renouvellement de la population active qui est très important. Et puis surtout, Jean-Paul et Laurent pourront apporter leur témoignage bien mieux que je pourrais le faire moi-même. C'est une voie d'avenir, l'automobile. C'est tout sauf une voie de garage. Il faut parler vrai, il faut arrêter avec cette vision très négative, très négationniste autour de l'automobile. C'est un secteur qui innove. C'est un secteur qui bouge, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui a besoin de jeunes, et de jeunes de tout horizon, y compris des femmes. Donc cette semaine a démarré depuis le 30 janvier, se déroule partout en France, avec des manifestations qu'on pourra détailler, le garage qu'on a fait de manière traditionnelle. Jean-Paul, je sais que c'est un fidèle de l'opération, et donc ce qui compte, c'est les témoignages de Laurent et de Jean-Paul aujourd'hui et les messages qu'ils portent en tant que directeur d'établissement et en tant que chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, et j'arrêterai là, ils ont bien sûr beaucoup de priorités. Ce sont des investisseurs, mais ce sont aussi des formateurs, ils ont une responsabilité sociale très forte. Et l'honneur de la profession, c'est que les chefs d'entreprise comme Jean-Paul savent prendre leurs responsabilités à l'égard de la jeunesse.
Alors cette semaine, Monsieur l'Empereur et Monsieur Roux, c'est une semaine pendant laquelle les jeunes sont informés sur les différentes formations qui existent dans l'industrie automobile, mais où ils peuvent également tester. Donc Monsieur l'Empereur, qu'est-ce que vous proposez, vous, au sein du groupe L'Empereur et de vos concessions pendant cette semaine de l'automobile et de la mobilité?
On fait venir un certain nombre de jeunes dans nos différentes concessions pour faire découvrir tous les aspects du métier. Et comme l'évoquait Xavier il y a quelques instants, je pense que l'image de nos métiers a bien changé, notamment depuis 5-6 ans maintenant, où on est en train de donner une autre image que le mécano égale cambouis, que le vendeur, beaucoup de labeur, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. On a essayé complètement de changer les images qu'avaient ces différents métiers automobiles. D'où la création de cette école il y a 3 ans que j'ai mis en place avec le GNFA à Carvin, qui m'a permis effectivement de créer chaque année et surtout de faire face à ma croissance, parce qu'avec 14 jeunes que je mets en formation chaque année pour les métiers de la vente, 10 jeunes que je mets pour la partie de la mécanique et 5 carrossiers, ça m'a réellement permis non seulement de donner un emploi à ces jeunes, parce que lorsqu'ils démarrent chez nous, on leur fait voir vraiment tous les aspects du métier. Et je veux vraiment insister pendant cette semaine de l'automobile, de leur dire que quand on est mécano, on va pas finir mécano. C'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai fait beaucoup de départs en retraite, parce que mon groupe a une certaine maturité, ça fait maintenant 35 ans qu'il existe, et j'ai vu des gens qui ont démarré à l'âge de 16 ans mécano et qui terminaient mécano. Aujourd'hui, c'est fini, ça c'est l'histoire ancienne, et on est là justement, lors de cette semaine des métiers de l'automobile, présent pour faire découvrir à tous ces jeunes qu'il y a un véritable avenir et qu'on peut démarrer très bien mécano, mais que si on a la soif d'apprendre, on peut devenir réceptionnaire, que si on veut continuer, on peut devenir chef d'atelier, et si on continue, on peut même devenir directeur après-vente de plaques. Et on a vu aussi des passerelles qui se sont faites entre des réceptionnaires qui sont devenus vendeurs. On a des femmes qui rentrent aussi, Xavier a parlé tout à l'heure,
Oui, tout à fait.
Donc, très sincèrement, parce que vous allez tout de suite vous rendre compte que vous avez un discours de passionné et que je vais mobiliser l'antenne pendant 30 minutes.
Vous avez de la concurrence, hein. Vous avez de la concurrence, monsieur l'empereur.
Voilà. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que il y a de véritables plans de carrière et qu'il faut arrêter de segmenter les métiers et de faire peur, parce que les salaires ne sont plus les mêmes, les conditions de travail ne sont plus les mêmes, la passion que l'on a autour d'un moteur n'est plus la même. C'est fini de manière systématique de faire du joint de culasse ou des roulements de boîte de vitesse. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Et je pense qu'on a un vrai véritable rôle en tant que patron de groupe, avec le CNPA, avec les écoles de formation, de prêcher la bonne parole, même déjà dans les premières instances. Moi, ça m'arrive avec mon directeur après-vente d'aller dans les classes où on est au niveau bac et de présenter ce que sont les métiers de l'automobile pour faire appel à des candidatures.
Alors, Monsieur Roux, vous avez 1500 élèves sur vos deux sites de Guyancourt et d'Argenteuil, des passionnés pour la plupart. Vous me disiez en fait que vous les recrutez sur leur motivation, bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bah, écoutez, déjà, pour revenir sur la semaine des services de l'automobile, je dirais que c'est la semaine du goût de l'automobile. Donc, effectivement, on fait quasi la fête tous les jours, depuis le 30 janvier, comme l'a dit Xavier. Et au programme des réjouissances, on a construit un programme depuis, en fait, le démarrage de cette semaine des services de l'automobile qui est soutenue par la NFA. En tant qu'organisme de formation, bien évidemment, on adhère complètement à cette démarche qui est une démarche vertueuse, parce qu'effectivement depuis le démarrage de cette semaine, elle ne cesse de progresser, elle ne cesse d'être audible, elle ne cesse d'être entendue. On est dans tous les scopes des orienteurs, donc pour nous c'est vraiment un moment attendu, parce que ça permet de faire découvrir nos métiers, de faire découvrir aussi cette filière qui une formation en automobile, c'est un emploi qui est garanti à la fin. On peut carrément l'afficher, puisque c'est vraiment des métiers et un secteur qui est en tension, où on recherche énormément de personnel qualifié. il y a une élévation des niveaux de formation. Comme le disait Monsieur l'Empereur, on donne du sens en fait à tout ça. On forme des artistes et il faut vraiment clairement dire que la voie professionnelle, la voie de la technologie, eh ben c'est une voie aussi vertueuse qui permet de former des jeunes et qui feront en fait tout le bonheur des professionnels de demain. C'est ce que l'on essaye de faire tout au long de cette semaine avec.
Vous avez un très beau programme.
Ouais, le programme, c'est un programme alléchant et qui effectivement qui donne envie, hein, qui donne envie. Encore ce matin, c'était les jeunes filles qui étaient présentes dans l'établissement. On en avait 50 qui sont venues découvrir les métiers de l'automobile. Mais c'est aussi des choses novatrices avec l'Alliance des mobilités, les startups que l'on fait venir en fait d'année en année qui sont plébiscitées. Je vous cache pas que tous les jeunes qui voient les pitchs, mais nous disent, mais quand est-ce qu'ils reviennent? Donc en fait, voilà, ça donne du sens et ça donne vraiment de l'envie. Oui, voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment pour nous un moment très fort qui est porté de plus en plus et qui nous donne envie de poursuivre en fait. Hein. Quand on dit qu'on a le plein emploi, ben c'est vrai en fait. J'organise même plus le salon de l'emploi au Garac puisqu'en fait ils sortent tous avec un emploi. On est passé de 800 jeunes en 2013 à 1500 maintenant. Il y a une progression quasi de 100 par an et c'est valable dans bon nombre d'organismes de formation. Donc on ressent tous une vraie attirance pour nos métiers qui sont des métiers d'avenir. Voilà.
Alors, il y a 50 000 postes non pourvus dans l'industrie automobile. Il y a quand même 2 700 000 chômeurs. Comment vous expliquez cela, Xavier ?
Pardon pour l'expression, mais je suis cash. C'est une énorme connerie et c'est un énorme, plus poliment, c'est un échec collectif qui est absolument sidérant. Tu disais tout à l'heure que 1 300 000 jeunes sortent chaque année en France sans emploi, sans qualification. C'est sidérant, sidérant. C'est un échec majeur de notre système d'éducation nationale. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, mais évidemment, et les choses sont plus complexes que ce que l'on peut en dire, donc il ne faut pas tomber dans les caricatures, mais tout de même, il faut avoir ce chiffre en tête quand on parle de la jeunesse et du désarroi dans lequel nos jeunes sont actuellement confrontés avec leur famille. L'une des raisons, c'est qu'évidemment, depuis trop longtemps, on a dévalué les formations techniques, les métiers dits manuels, en organisant une forme de course au diplôme dit supérieur. Et c'est une véritable aberration économique, bien entendu, mais c'est aussi un risque immense quand on parle de cohésion sociale et de la nécessité d'avoir de la cohésion sociale dans notre pays qui en a bien besoin. Donc, à force de dévaluer ces formations, à force de nous être lancés dans cette folie d'une course au diplôme supérieur, et en fait, on a privé une très grande part de notre jeunesse d'opportunités, de chances, comme l'expliquait Jean-Paul, c'est-à-dire d'avoir d'abord une possibilité de s'insérer dans la vie active, d'avoir un travail, un vrai emploi, un contrat de travail, très majoritairement dans notre profession, un CDI, avec un bon salaire, et une capacité de progresser au sein des entreprises. Jean-Paul l'exprime mieux que tout autre. Un jeune aujourd'hui qui arrive dans une entreprise, s'il est bon et s'il veut progresser en utilisant les parcours de formation que la profession a mis en place maintenant depuis des années, quelqu'un qui arrive en CAP aujourd'hui, il peut terminer, s'il suit tous les modules de formation, en étant ingénieur. C'est quand même pas neutre. C'est pas neutre. Mais encore faut-il que nos pouvoirs publics, au-delà des mots, soutiennent beaucoup plus fortement l'apprentissage qu'ils ne l'ont fait. Ça a progressé ces dernières années et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, puisqu'aujourd'hui on atteint un chiffre de 460 000 apprentis en France, donc c'est un excellent chiffre, c'est tout à fait juste, mais pour le prolonger et surtout le rendre durable, il faut opérer un changement culturel beaucoup plus profond et c'est au niveau des familles, je pense, que ça se passe. C'est aux familles qu'il faut parler et c'est pour ça que cette semaine de la mobilité, finalement, elle s'adresse autant aux jeunes qu'aux familles pour changer le regard sur l'alternance, sur l'apprentissage et sur les métiers de l'automobile et donc de changer de représentation au niveau de l'automobile.
Alors justement, Monsieur Roux, en parlant du regard des familles sur l'apprentissage, est-ce que vous notez un changement de regard depuis quelques années ?
On a eu en fait toutes les campagnes qui nationales qui commencent à porter leurs fruits. Je pense que le travail est fait et monte en puissance, y compris dans les collèges en termes d'orientation, puisque faut pas oublier que les prescripteurs, le professeur principal de troisième en collège, c'est un personnage très important pour les jeunes et les familles. C'est quelqu'un qui va en fait aiguiller réellement les jeunes sur des fois de l'aiguillage automatique vers la seconde générale et technologique, et qui oublie des fois la voie professionnelle, et qui oublie encore plus des fois l'apprentissage, parce que c'est vrai que c'était pas dans les schémas préétablis. Alors je crois que maintenant, à force d'en parler, à force de montrer aussi la preuve par l'exemple, des gens qui réussissent, des gens qui n'ont plus peur aussi de s'exprimer parce qu'ils sont passés par un parcours de l'apprentissage qui a joué le rôle d'ascenseur social. Ils ont réussi ensuite à s'insérer dans l'entreprise et à progresser dans l'entreprise avec la formation continue, avec un certain nombre de sujets qui sont très, très bien traités par notre filière. Et là, on a des jeunes et des familles qui sont rassurés en fait par cette voie-là. Il n'y a pas d'inquiétude. Et ce qu'il faut dire aussi, que c'est pas une orientation que l'on doit faire par l'échec. Moi, j'insiste beaucoup sur la notion d'artiste. On a des artistes de la main et on a des artistes du cerveau pour raisonner et réparer ces véhicules qui sont de haute technologie. Et je crois que quand on va commencer à parler vraiment de ces métiers d'art, parce qu'on est dans les métiers d'art, mais de la technologie, on aura un autre public. Et très clairement, nous, on le voit arriver effectivement des jeunes qu'on ne voyait pas arriver il y a quelques années. Puisque les objets ont bougé, on était banni des écrans radars parce que l'auto, finalement, il y a plusieurs années, c'était pas forcément dans l'air du temps. Et je crois que avec la nouvelle mobilité, tout le monde a bien compris qu'on faisait partie de cette chaîne-là et on n'allait pas disparaître, bien au contraire. Donc, il y en a besoin justement de personnel qualifié et tout le monde en est plus que conscient. Alors que ça soit à travers sur les chaînes de traction, les énergies qui changent, mais tout l'univers en fait du multimédia et de la connectivité qui attire énormément de nouveaux publics qui seraient pas forcément venus à nous avec ces campagnes-là qui nous aident. Petit à petit, honnêtement, on se rend bien compte qu'il y a une attirance vers la formation des métiers de l'automobile. Il y a l'apprentissage, mais pas que l'apprentissage, je pense que tout le monde en bénéficie en fait.
Alors, Monsieur l'Empereur, quand vous voyez arriver des jeunes avec un CAP ou un bac pro, est-ce que vous avez l'impression de voir arriver des jeunes qui étaient en situation d'échec et qui ont choisi cette voie en second choix, ou alors est-ce que c'est vraiment des passionnés que vous avez en face de vous ?
J'aimerais rebondir sur le propos de Xavier qui va en droite ligne avec la question que vous venez de me poser, c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'attente que l'on peut avoir lorsqu'un jeune sort avec un CAP et un bac, par exemple, ou même un BTS, et ce qu'on leur demande de faire dans nos ateliers. Et je pense que la première chose qui est à faire au niveau de l'éducation nationale commence aussi par les éducateurs. Je pense qu'il y a un décalage aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis beaucoup investi avec Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et avec l'usine BMW à Munich pour obtenir, je dirais, des boîtes de vitesse, mais qui sont des boîtes de vitesse telles qu'on les vend aujourd'hui, pas des boîtes de vitesse de Renault 5 il y a 20 ans. Je me bats chaque jour pour que le niveau scolaire, que ce soit dans les lycées, dans nos régions, évolue. Alors, c'est sûr que c'est une mesure que j'essaye au niveau local, mais qui doit être prise à bras-le-corps au niveau national. On ne peut pas… Oui.
Alors, Monsieur l'Empereur, une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'effectivement, vous avez créé en 2018 une école pour former la main-d'œuvre dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision ?
Ce qui a motivé ma décision, c'est surtout que lorsque je reprenais une affaire, que ce soit une affaire existante ou que je devais couvrir un secteur parce que la marque n'était pas représentée, j'étais face au problème qu'évoquait M. Groux tout à l'heure, c'est que lorsque l'on veut recruter, eh ben, on peut passer une annonce et aller expliquer les collègues chez les uns et les autres, ça connaît ses limites. Aujourd'hui, faire des offres qui vont que sur la surenchère des salaires en allant piquer les vendeurs chez nos concurrents, alors que, comme le dit Xavier, on a je ne sais combien de chômeurs aujourd'hui et de gens qui sont sans emploi, c'est une erreur. Donc, je me suis dit, on va prendre le problème à la base. Et j'ai fait la promotion des métiers dans les lycées. Je leur ai proposé de venir me voir et c'est pour ça que j'évoque cette différence, c'est que j'ai une démarche proactive dans les lycées professionnels pour faire venir les jeunes. Quand je prends ces jeunes, je les mets en situation dans la concession et je les renvoie ensuite en formation continue au GNFA à Carvin. Et là, c'est là où on commence à sentir qu'il y a des tensions entre ce qu'ils ont appris, ce qu'on attend et le niveau qu'on attend d'eux-mêmes à l'école. Donc, je pense qu'il y a une vraie, et je le dis solennellement à Xavier aujourd'hui, il faut remonter, parce que je sais que tu rencontres très régulièrement nos élus au niveau national, il faut absolument que ça va de Blanquer à Monsieur Le Maire, il faut à un moment donné qu'ils mettent même leurs professeurs dans les lycées à niveau. Je veux dire, on a des professeurs aujourd'hui qui sont dans des lycées professionnels qui sont largement en décalage par rapport à la technologie embarquée dans les voitures aujourd'hui, même de premier niveau. Et on voit encore, malheureusement, dans les lycées professionnels, des jeunes. Alors certes, les fondamentaux, il faut qu'ils restent. Savoir ce que c'est qu'une boîte de vitesse, ce que c'est qu'un moteur thermique, ils doivent le connaître. Mais il faut que les moyens qui doivent être donnés à l'éducation nationale pour les métiers d'automobile aient complètement en décalage par rapport à nos attentes.
Alors, est-ce que les enfants, les élèves que vous formez dans votre école, Monsieur l'Empereur, est-ce qu'ils trouvent un travail juste après? Est-ce que vous vous engagez, par exemple, à les embaucher?
Ah, bien sûr, mais c'est un engagement ferme, c'est-à-dire que la photo que vous avez passée à l'écran il y a quelques instants, le jeune qui passe d'ailleurs, je dirais, dans les fourches codines de nos organisations, lorsqu'on a décidé de recruter ce jeune et de s'inscrire dans une formation de 2 années, lorsqu'il part, et vous le voyez à l'écran, ils ont le petit dossier sous le bras, c'est une promesse d'embauche définitive, c'est-à-dire que le jour où le jeune rentre chez nous dans notre école, il sait que si la formation est acquise, donc le module est qualifié par le jury et que bien évidemment le comportement était à la hauteur ce qu'on peut attendre d'un collaborateur dans l'entreprise, ce jeune part déjà avec une promesse d'embauche définitive. Il a son CDI en poche avant même d'avoir commencé à travailler 1 heure en formation. Donc, et ça, je dirais que ça, c'est pas une formation qu'on fait par défaut. Et c'est vrai, le propos de Laurent Gros tout à l'heure était, à mes yeux, extrêmement important. C'est que c'est fini de dire que les métiers de l'automobile, on les fait par défaut. Il faut qu'on les fasse par passion parce qu'on a une véritable croyance dans l'avenir de ce métier. Et on a eu trop tendance à dire, tiens, tu peux pas devenir effectivement ingénieur ou faire des études secondaires. Il reste quoi? Tu peux devenir menuisier, boucher ou mécano. Et ça a connu ses limites. Je pense que on n'a pas donné assez de valeur à ces métiers. Et je le disais en introduction tout à l'heure, il faut savoir qu'on a des techniciens experts aujourd'hui qui gagnent plus que des vendeurs auto. C'est-à-dire que la roue est en train de tourner. Donc, les métiers manuels dans l'automobile sont des vrais métiers d'avenir.
Alors justement, la roue est en train de tourner. L'automobile, je le disais en introduction, est en pleine transformation digitale et environnementale également. Xavier, les métiers dans l'automobile vont être de plus en plus diversifiés et pour certains de plus en plus pointus. On va bientôt recruter également des informaticiens au sein des garages.
Bien sûr, et pour certains groupes de distribution, il y a des nouvelles fonctions qui sont arrivées, dont Jean-Paul pourrait parler, mais on est dans un univers automobile où on parle beaucoup de data, de technologie, de mix énergétique. Donc, on voit que les produits sur lesquels nous travaillons, qui sont distribués, qui sont réparés, maintenus, contrôlés, ravitaillés, vont générer des nouvelles compétences. Et quand on parle d'automobile, il faut aussi bien recentrer les choses. Moi, je suis convaincu que l'histoire de l'automobile, son barissante, est en train de se déplacer plus du produit vers les services de l'automobile, d'abord. Et puis ensuite, en termes de force, en termes de capacité, en termes de maillage territorial, la première force automobile aujourd'hui en France, ce sont les services de l'automobile et de la mobilité que nous représentons au CNPA. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des investisseurs, des chefs d'entreprise, tels que Jean-Paul qui est avec nous aujourd'hui, qui assument toute cette responsabilité sociale, économique ou en termes d'insertion. Et c'est très important de l'avoir en tête parce que, en termes de grande masse, on porte aujourd'hui la formation de 65 000 jeunes par an. 65 000 jeunes, c'est absolument considérable, considérable. Laurent parlait tout à l'heure des start-up. Alors, ça paraît toujours un peu anecdotique, un peu happy few, ce que vous voudrez. C'est tout le contraire, pour plusieurs raisons. Je vais en citer que deux. D'abord, remarquons que la mobilité ou l'automobile, ça reste un secteur de passion, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de start-up en France et dans le monde s'y intéressent. C'est un sujet de passion, c'est un sujet d'innovation, c'est un sujet d'inspiration pour la jeunesse. Et puis, deuxième raison, c'est une autre manière de représenter notre secteur. C'est une autre manière d'avoir une image plus rafraîchissante, plus orientée sur les nouvelles technologies, orientée sur les solutions. Comme le disaient tout à l'heure Jean-Paul et Laurent, le champ des possibles dans les services de l'automobile, l'éventail de solutions s'est considérablement élargi. La moitié des fonctions qui seront dans les entreprises à l'horizon 2030 n'existent pas aujourd'hui. La moitié. Donc il y aura bien sûr toujours des fonctions de base, des fonctions support, mais le côté pluridisciplinaire que l'on demande aujourd'hui aux jeunes qui rentrent dans nos métiers va continuer à s'élargir, à s'approfondir et de plus en plus pointu, avec les recherches très clairement des meilleures compétences, hommes et femmes, et avec des possibilités d'évolution qui sont aujourd'hui insoupçonnées. Donc moi, ça me fait très plaisir quand je vois des start-up au Garak, quand je vois des start-up coopérer avec des grands groupes comme le groupe L'Empereur, et il y en a de plus en plus aujourd'hui. On a eu cette possibilité d'initier quelque part ou d'accompagner ce mouvement au niveau du CNPA. J'en suis très heureux parce que à la fin des fins, ce qui compte, c'est la photo que Jean-Paul a montrée de son groupe. Moi, sur la photo, qu'est-ce que je vois? Des gens qui sourient et des gens qui sont fiers. Ben, c'est gagné. C'est pas plus compliqué. Ça donne une image d'un groupe automobile qui est totalement différent par rapport à ce que le grand public peut imaginer, parce que ce sont des métiers qui ont malheureusement encore tendance à passer sous le radar. On pense automobile, on pense tout de suite industrie. Oui, pour une part de la filière. Mais pour la très grande part aujourd'hui de la filière en France, c'est chez nous que ça se passe. Et quand vous intégrez un groupe ou un atelier de réparation ou des services de l'automobile, les capacités sont absolument gigantesques. C'est ça qu'il faut complètement modifier aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Et un dernier mot pour remercier Jean-Paul, parce que il fait partie des chefs d'entreprise qui mouillent leur chemise pour aller passer du temps dans les lycées ou dans les collèges. Ça, c'est du temps de travail caché qui n'est pas suffisamment valorisé par les pouvoirs publics, par nos différentes autorités ou même par tes collègues au niveau de la presse. Il faut s'y intéresser à cela. Ça, c'est le concret, on est dans la vraie vie. Et c'est un temps, c'est un investissement humain qui est tout à fait conséquent. On ne rentre pas dans une entreprise ou dans un secteur avec une fiche ONICEP envoyée par le recruteur du collège. Ça, c'est pas vrai. C'est un chef d'entreprise qui donne envie. C'est une école qui donne envie. C'est pas des webinaires ou des fiches complètement abstraits où on voit le décalage et le fossé dont parlait Jean-Paul tout à l'heure qu'il peut y avoir entre l'école et l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable patronal, c'est aussi de rapprocher le monde du travail, qui est souvent à tort considéré comme pénible, fatigant, compliqué, etc., de notre jeunesse. Pour sortir de cette crise épouvantable que nous aurons à gérer dans les prochaines années, on a impérativement besoin, chez nous, dans notre filière, de jeunes motivés, bien formés, qui ont la notion du savoir technique, du savoir-faire, mais aussi qui ont cette notion très particulière dans les métiers de service, de savoir-être. Parce que intégrer un grand groupe comme celui de Jean-Paul ou d'autres, on a besoin de jeunes qui aient le sens minimum d'un certain nombre de valeurs au niveau de l'entreprise qui sont très importantes dans la qualité du recrutement, dans la qualité de la motivation que Laurent et Jean-Paul ont exposé tout à l'heure.
Alors, Monsieur Roux, je vous ai vu réagir hein, quand on a parlé de savoir-être. Vous voulez dire un mot à ce sujet ?
Moi, savoir-faire, c'est sûr, pour former les artistes, il nous les faut. Savoir-être, c'est évident parce qu'on est dans la relation avec les clients et pour faire fonctionner un centre de profit, c'est indispensable. Et je rajouterais juste le quatrième savoir dont on a parlé finalement depuis le début, c'est le savoir devenir, parce qu'il faut faire grandir et donner des parcours possibles en fait à ces jeunes qui s'orientent chez nous, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir qu'ils vont passer par des étapes et qu'ils vont petit à petit pouvoir évoluer. Et c'est ce qui fait qu'ils restent dans la profession. Voilà. Donc le savoir devenir est extrêmement important. Et toutes les conférences d'ailleurs qu'on organise, conférences métiers, le groupe Chopard est là cette semaine, mais des conférences aussi avec… faut donner du sens en fait à toute la filière pour leur montrer l'entièreté de ce que ces jeunes vont pouvoir faire demain. Leur donner envie de rester, c'est leur donner aussi la possibilité de voir et lire l'avenir. Alors, c'est compliqué en ce moment, on comprend bien, mais c'est important pour eux, pour qu'ils se construisent. On ne vient pas dans un secteur par hasard et je crois qu'on a tellement de belles choses à leur montrer. C'est ça aussi la semaine des services de l'automobile.
Alors, Monsieur l'Empereur, pour éviter justement ce fossé qu'évoquait Xavier Oran entre la formation et le monde de l'entreprise, est-ce que vous trouvez que les formations sont suffisamment agiles pour s'adapter aux évolutions rapides de la technologie? Je pense notamment à tout ce qui est électrification, hydrogène, etc., autonomie, enfin véhicule autonome, etc. Est-ce que la formation suit l'évolution technologique?
Je dirais que oui et non. C'est vrai que lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a des formations qui sont faites chez les constructeurs et donc c'est très axé sur la marque et pas forcément sur l'environnement global. Donc, je pense que les constructeurs arrivent à former les personnes, enfin nos collaborateurs, à leur marque dès qu'il y a une évolution technologique. Par contre, j'aimerais juste quand même rebondir sur ce qui a été dit avant, si vous me permettez. C'est notamment, on a parlé des pouvoirs publics, on a parlé des centres de formation, mais je pense que Xavier l'a dit aussi, il faut faire le ménage chez nous, nous patrons de groupe, nous chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a eu trop tendance à vouloir aussi prendre des jeunes et à vouloir qu'ils soient rentables immédiatement. Or, le tutorat pendant cette formation est primordial. Je discute avec des collègues qui me disent « Mais comment tu fais? Toi, tu fais venir 30 jeunes, t'en recrutes 28. Moi, j'en prends 10 et j'en ai que 2. Ils sont pas bons, ils sont nuls, ils vendent pas leurs heures. » Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que le chef d'entreprise, patron de groupe, patron de concession, comprenne que le jeune qu'on va prendre, il faut lui laisser du temps. Il faut que le tutorat soit de bonne qualité. Il faut que… on parlait tout à l'heure de vendre un peu du rêve, mais on le sait tous, moi j'ai eu des chefs d'atelier en réunion de direction qui disaient « Ah oui, mais le jeune que vous m'avez mis, j'ai vendu 30% de ses heures. » Ben forcément, il va pas vendre 100% de ses heures. Et ça, c'est des choses qu'il faut que l'on intègre. Donc je pense que effectivement, la formation des constructeurs sur les technologies nouvelles et tout, on peut dire qu'elle suit. C'est pas tellement là, mais pour revenir à ces semaines, cette semaine des métiers de l'automobile, et j'insiste, je parle avec beaucoup de conviction, il faut aussi faire notre mea culpa. Il faut, alors il y a des jeunes qui, on parlait du savoir-être, n'ont pas le comportement, n'arrivent pas à l'heure, pensent qu'à faire la fête et viennent là par défaut, et ça on arrive très facilement à leur dire, écoute, tu fais fausse route, tu t'en vas. Mais ceux qui veulent vraiment réussir, il faut être tolérant, il faut être patient, il faut un tutorat de qualité, et il faut surtout s'inscrire dans la durée. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, quelles sont les qualités requises pour réussir dans l'automobile?
Bah, je dirais qu'il faut faire attention. On parlait de passion tout à l'heure. Moi, j'ai vu des fois des vendeurs qui venaient me voir en disant oh, recrutez-moi, je lis Auto Plus, je connais tout sur telle voiture, telle voiture, telle voiture. Alors, entre le passionné qui lit absolument toute la presse automobile, qui est incollable, il en connaît beaucoup plus que moi, et le mettre face à un client, on n'est pas dans la même chose. Donc, il faut faire attention aussi que la passion que l'on peut ressentir chez les uns, faut aussi qu'on ait les compétences et qu'on mesure l'ampleur de nos métiers. Un vendeur, c'est pas uniquement de savoir du plaisir et vendre du rêve, c'est que derrière, il y a aussi un vrai métier. On parlait d'évolution avec les data, avec des Salesforce, avec des techniques qui sont extrêmement complexes. Aujourd'hui, vendre une voiture, c'est pas uniquement accueillir un client, lui présenter le produit parce qu'il le connaît mieux que nous, mais c'est de la manière dont on va le suivre, dont on va l'accompagner pendant la durée de vie. On vend plus une voiture, on vend mobilité. Tout ça, ça a changé. Or, il y a encore beaucoup de jeunes qui pensent que vendre une voiture, c'est vendre un produit. On vend pas un produit, on vend une mensualité, on vend un abonnement, on vend un renouvellement, on vend un contrat d'entretien. Les métiers ont tellement changé que parfois, l'image que se fait le jeune du métier est la réalité lorsqu'il rentre dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je veux dire, la qualité que vous me demandez, on aurait tendance à dire, bah, faut prendre des passionnés. Oui, c'est sûr qu'il faut aimer le métier et si on n'aime pas le métier, on ne peut pas réussir. Mais il faut pas être que passionné. Il faut aussi tenir compte que derrière, c'est un vrai métier qui a beaucoup changé. On travaille maintenant avec des centres marketing, avec des centres d'appel, avec des process, parce que le client, il est devenu zappeur fou. Hein, vous savez que la statistique le dit, lorsqu'un client rentre dans une concession, on a 1,2 chance de lui vendre une voiture. Avant, il se déplaçait 4 ou 5 fois pour acheter une voiture. Il ne se déplace plus qu'une fois. Ça veut dire que quand il vient, on a l'obligation d'être bon. Quand on raccompagne un client à la porte et qu'on lui dit « Au revoir, monsieur, bonne journée », on n'a plus que 0,2 chance de le revoir. Donc, tout ça, c'est des choses à intégrer et je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures.
Alors, monsieur Roux, est-ce que vous avez constaté, on parle souvent de parité, est-ce que vous avez constaté une féminisation des élèves dans les filières automobiles?
On œuvre beaucoup. Sachez que là, par rapport à la semaine des services de l'automobile, on organise un événement depuis le démarrage qui s'appelle la Girls Day, où on fait accueillir en fait les futures jeunes filles qui souhaitent se destiner à nos métiers par les jeunes filles présentes dans l'établissement, et ça a eu pour objectif de faire grandir en fait le nombre de jeunes filles dans l'école. On est entre maintenant 50 et 60 chaque année, et je pense qu'on va passer un certain stade, parce que c'est vrai que elles ont leur place, elles sont attendues, elles sont très bien accueillies dans les entreprises, elles sont recherchées, et je dois vous dire que dès que nous avons une ou deux jeunes filles dans les classes, nous n'avons pas le même comportement de la classe, et je pense que quand on a une ou deux jeunes filles dans des équipes, dans des entreprises, et ben on n'a pas le même comportement de l'équipe, et elles sont vraiment, je pense, complémentaires. Donc là, ce matin, nous en avons accueilli une cinquantaine, et c'était encore une très belle réussite. Elles sont convaincues, il faut souvent convaincre plus leurs parents, mais le fait d'en avoir un certain nombre maintenant, elles sont plus que visibles dans l'établissement. Et donc je suis plutôt confiant pour l'avenir, parce que elles ont certaines qualités, notamment dans des filières. Elles sont dans les filières tertiaires, mais elles sont quand même beaucoup mouches. Dans les filières techniques, en fait, on les retrouve en auto, en moto, en poids lourd, en carrosserie, en peinture. Et on me disait encore récemment que voilà, en carrosserie, il y a quand même des choses qui s'opèrent et qui sont de grande qualité. Voilà, donc elles mettent la barre très très haut par rapport à des jeunes que nous avons en formation. Elles se distinguent aussi dans les Olympiades des métiers. Donc la preuve en est, c'est qu'elles sont aussi, elles aiment être challengées. Voilà. Mais de plus en plus, et c'est très bien.
Vous confirmez, Monsieur l'Empereur, les filles sont plus sérieuses que les garçons au niveau du travail et changent l'atmosphère d'un atelier ?
Alors, je dirais sérieuses, peut-être pas, mais par contre, ce sont des gens qui ont du tempérament. Moi, j'en ai. Chez BMW à Douai, par exemple, chef d'atelier, c'est une femme qui manage une équipe de 12 compagnons et qui fait admirablement bien son métier. J'ai une responsable de carrosserie qui est capable de tenir tête à un expert sur des heures. Bon, c'est généralement des femmes de tempérament et de caractère qui savent prendre des décisions, qui savent manager. J'ai d'excellents résultats aussi dans les équipes de vente, hein, et je cherche de plus en plus à avoir des parités. Parce que les gens aiment bien aujourd'hui, et c'est là où on parlait de l'évolution de ce métier aujourd'hui, entre l'image mécanique cambouis, où il y a encore 10 ans, on n'aurait pas imaginé qu'une femme puisse travailler, faire une vidange, parce que c'était réservé qu'aux hommes. Je veux dire, aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi de la passion chez les femmes pour les métiers de l'automobile, mais c'est vrai que ce sont des belles réussites. J'étais moi-même hésitant, hein, je l'avoue humblement, j'étais un peu machiste, l'automobile, c'est les hommes, mettre des femmes dans une équipe de vente, ça peut créer des soucis, et non, pas du tout. Je dirais aujourd'hui, ça crée effectivement une effervescence. Et le mec, il est tellement fier que parfois, quand une vendeuse est devant lui, il va aller chercher la dernière commande pour montrer quand même que… Donc, ça crée une bonne effervescence dans l'équipe, une effervescence saine et constructive. Donc, j'avoue que j'ai revu complètement ma position sur ce côté machiste qu'on pouvait avoir, et que les femmes ont vraiment aussi un bel avenir dans les métiers de l'automobile.
Alors, Xavier, le CNPA représente 21 métiers de l'automobile et de la mobilité. Est-ce qu'il y a des métiers où les femmes sont plus présentes que d'autres ?
Oui, effectivement, il y a des métiers où les femmes sont assez traditionnellement plus présentes. Je pense notamment dans le métier des auto-écoles, dans l'enseignement de la conduite. Si mes chiffres sont bons, elles sont même majoritaires, à 53% dans les effectifs salariés de ce type d'entreprise. Mais ce que l'on note aussi dans nos observatoires, c'est qu'il y a de très fortes progressions. Aujourd'hui, c'est 19%, si mon chiffre est exact, dans le commerce automobile. Donc, on voit que ce chiffre a d'ailleurs doublé sur ces 5 dernières années. Donc, la progression est tangible. C'est une très, très bonne nouvelle. On en discute avec nos partenaires sociaux de manière régulière dans les réunions paritaires pour voir quel type d'engagement la profession peut prendre pour favoriser cette parité entre les hommes et les femmes au niveau de l'ensemble de la branche. Et puis, comme on le disait tous les quatre depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut changer la représentation de l'automobile qui se féminise de plus en plus. Les femmes étaient d'ailleurs déjà déterminantes dans l'acte d'achat d'une automobile. Mais Jean-Paul parlait d'une autre manière de manager, de recevoir la clientèle, il y a aussi cette attention plus marquée qu'il faut avoir auprès de la clientèle féminine, pardon, dans l'explication de la transparence des prestations qui sont apportées. Je pense que là, il y a sans doute peut-être encore des efforts qui sont sans doute à faire. Mais l'automobile, aujourd'hui, elle se conjugue au féminin. On parle d'ailleurs de plus en plus de la mobilité ou des mobilités. On est plus sur des notions de mobilité plus douces, plus apaisées à tout point de vue. Ça, je pense que c'est un changement en termes d'image, de perception qui est assez fondamental. Il faut absolument en tenir compte. On a besoin d'ambassadrices et il y a beaucoup d'ambassadrices. Je vois beaucoup de pilotes femmes, par exemple dans la Formule 1, qui portent une image radicalement différente, là encore, de la profession. Les startups dont on parlait tout à l'heure, je trouve, à contrario, qu'il y a beaucoup d'hommes et pas assez de femmes. Vous voyez comme quoi il faut toujours se méfier des stéréotypes. On a croisé maintenant, nous, au niveau du CNPA, presque 600 startups. Donc, on a un certain recul en termes de perception par rapport à la réalité. Hier, juste une anecdote, j'étais avec Francis Bartholomé, on recevait Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie, dans une école que Laurent doit connaître, qui est en périphérie de Rouen, qui s'appelle la Châtaigneraie, qui forme 1800 jeunes chaque année. Là encore, le niveau de réputation de cette école, comme celle du Garac, n'est plus à faire. Mais ce qui m'a intéressé, justement, c'est que les deux majors de la promotion, ce sont deux jeunes femmes. Une qui s'appelait Chloé, qui faisait de la soudure hier, qui a démontré à Hervé Morin, qui était assez sidéré, la manière dont elle pratiquait. Et puis, il y avait une autre qui s'appelait Anne, qui s'appelle Anne, et qui était en train de travailler sur la réparation collision. Et ces deux jeunes femmes donnaient une image absolument rayonnante de la profession à côté de jeunes hommes qui étaient à côté d'elles et qui les écoutaient de manière en souriant, mais avec beaucoup de fierté collective. Et puis, je terminerai en disant qu'on soutient beaucoup, je parlais de féminisation de la représentation de nos métiers, sans faire de jeu de mots un peu hasardeux, je pense que l'automobile, elle a besoin d'elle. Elle a besoin d'elle avec toutes les orthographes possibles. Je pense qu'il faut qu'on fasse décoller cette image, hein, à la fois, il faut atterrir sur la réalité de nos métiers et des entreprises, et en même temps, il faut continuer à faire rêver et à donner des perspectives. Notre jeunesse, elle a besoin de perspectives. Et puis naturellement, l'automobile a besoin d'elle, cette fois-ci au féminin. Et ça, on a un effort à faire au niveau de la branche qui est beaucoup plus important encore. Je pense que tu as prévu de passer la vidéo tout à l'heure de promotion de la semaine de la
mobilité.
Et dans cette vidéo, on y retrouve naturellement une jeune femme. Et c'est, je pense, cette jeune femme qui marque finalement le plus, parce que ce décalage existe encore dans la représentation de nos métiers, et il faut continuer à le gommer, parce que, je veux dire, les femmes aujourd'hui, c'est pas un sujet dans l'automobile, elles sont plus que les bienvenues, et dans les postes de direction dont on parle tant, ou dans les fonctions support, dans nos interlocuteurs au niveau du CNPA, je vois que beaucoup de nos interlocuteurs sont aujourd'hui des femmes. Et elles épaulent des chefs d'entreprise comme Jean-Paul quand elles ne sont pas elles-mêmes à la tête des affaires ou de plaques de concession. Donc, il y a les fonctions techniques, mais il y a aussi les fonctions support dont on parle, à mon avis, pas assez. Et pour prendre l'exemple d'ailleurs du CNPA lui-même, moi, dans mon comité de direction, modestement, on a un peu plus de 200 salariés. Mon comité de direction, il est à trois quarts composé de femmes aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de femmes au CNPA de tempérament et qui seront, j'en suis sûr, en sorte que l'image de nos métiers auprès des femmes, notamment avec une association qui s'appelle WEV, que Jean-Paul, d'ailleurs, je crois, soutient également. Voilà, on a là aussi des messages à passer, y compris sur les fonctions support dans nos métiers.
Donc, je recevrai prochainement la présidente Elisabeth Jung.
Une femme de qualité.
Donc, je vais vous montrer, j'en profite effectivement pour vous montrer la vidéo de promotion de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité et ses super-héros.
Certaines personnes ont des pouvoirs particuliers. Elles déclenchent des explosions. Elles voient à travers le métal. Elles conduisent des révolutions en silence. Elles domptent des monstres. Mais leur plus grand pouvoir, c'est d'écouter leur passion. 30 janvier au 6 février, 300 lieux de formation et entreprises vous attendent. Rendez-vous sur semaineserviceauto.com.
Alors, Laurent, on parle beaucoup d'innovation technologique, mais on ne parle pas de la conservation du patrimoine. Pourtant, c'est un domaine en pleine évolution, en plein essor, et vous avez une formation, je crois, spécifique au Garac.
Tout à fait. La nouveauté, effectivement, de cette année scolaire, ça a été l'ouverture de deux sections véhicules historiques et anciens dans le domaine de la mécanique et de la tôlerie. Et c'est une découverte, oui et non, puisque nous avions un peu l'habitude de rénover aussi des véhicules. Mais là, maintenant, on commence à se professionnaliser. Donc, il y a bon nombre de jeunes qui rejoignent l'école et qui avaient rejoint l'école puisque c'était une tendance déjà de vouloir ouvrir ce type de formation suite à la création de la branche des véhicules historiques et anciens du CNPA. Et on a de nombreux jeunes qui arrivent chez nous, qui souhaitent passer un bac pro comme socle commun de formation et ensuite s'orienter vers ce type de formation, des CQP, des titres de la branche, qui vont là aussi permettre à des jeunes de se qualifier dans ce domaine et pouvoir aussi, je pense, aller réaliser de l'entrepreneuriat parce qu'il y a de nombreuses pépites en France. Et former la jeunesse pour demain et reprendre ces entreprises qui sont là sur la sauvegarde du patrimoine et la transmission aussi du savoir-faire, je trouve que ça a un côté très noble et très vertueux par rapport à nos métiers. C'est une niche, ça dégage aussi, il y a un vrai business autour de ce domaine-là, il y a un engouement et c'est très bien qu'il y ait des formations spécialisées dans ce domaine.
Monsieur l'Empereur, est-ce que vous avez dans vos ateliers certains ateliers qui sont spécialisés justement dans les véhicules historiques ?
Non, à ce jour, j'en ai pas. On le fait un peu dans la moto parce qu'on s'est lancé depuis peu dans la moto et là, de la restauration de moto ancienne, c'est plus courant. C'est vrai qu'on a été fort absorbé, je dirais, par nos métiers traditionnels. Mais je sais que de certains groupes, je fais référence à Jeanlin, je sais qu'ils ont créé une branche vintage. Je dirais que on parlait de passion et de plaisir, c'est certainement un sujet à creuser parce que l'automobile, je ne vais pas dire que c'est devenu un peu quelque chose de banal, mais on vend de l'abonnement. Maintenant, on ne vend plus forcément toujours ce rêve, cette passion qu'on a pu avoir, que j'ai connue, moi, dans les bonnes années. Par contre, ce côté un peu vintage, l'héritage du passé sur l'automobile, ça reste quand même fort. Moi-même, je veux dire, je suis toujours admiratif quand je vois une voiture ancienne, quand on voit le tour, je ne sais plus comment il s'appelle, le tour, le Paris Auto Tour. Là,
le Tour Auto.
Le Tour Auto, voilà. Donc, je dirais, quand on voit ça, c'est toujours… quand on voit le nombre de personnes sur le bord des routes, c'est presque comme le Tour de France, quoi, pour admirer ces voitures anciennes. Donc, cultivons encore ce plaisir qui est autour de l'automobile, même si, effectivement, les métiers changent et qu'on traverse une période pas facile en ce moment.
Alors, pour terminer, je voudrais vous poser une question à tous les trois. Comment voyez-vous les métiers de l'automobile à l'horizon 2030, Xavier ?
Sympa, la question est pour moi direct.
Non, mais vous y passerez tous.
Voilà, mais allez, il faut dire si je dois m'en aller, si tu dois dire la vérité, je peux peut-être quitter l'émission avant l'heure.
Écoute, moi je suis un optimiste de nature d'abord, mais enfin, évidemment réaliste. Les métiers vont se transformer de manière très profonde, mais je pense que il faut jamais perdre de vue les grandes tendances. La grande tendance, c'est que les besoins en mobilité vont continuer à augmenter dans le monde et en France. Donc, quand on parle d'automobile, quand on parle de mobilité, il faut toujours faire attention au niveau des médias ou au niveau de nos autorités politiques de ne pas envoyer des messages contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des entreprises de recruter, de former des jeunes et d'assumer une responsabilité sociale qui est forte, et de l'autre, casser des secteurs entiers, comme on l'a vu récemment dans la réglementation, en rendant les contraintes trop lourdes, trop fortes, y compris sur le plan fiscal. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir équilibrer les choses, équilibrer les représentations, équilibrer les discours, et puis accompagner la transformation de ces entreprises sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan réglementaire, pour finalement aider notre jeunesse, aider ces entreprises, c'est aider un fleuron industriel, c'est aider un patrimoine d'entreprise extrêmement fort en France. Et ce faisant, c'est donner aux jeunes toutes leurs chances. Le plan du gouvernement, ils ont mis en place un plan qu'il fallait faire incontestablement dans le contexte actuel, qui s'appelle « Un jeune, une solution ». Alors, ce plan fonctionne bien parce que les finances publiques qui ont été débloquées pour ce plan, même si elles ont parfois du mal à arriver dans les entreprises, mais les fonds publics ont été mis en place de manière très importante, de manière très significative, mais ce n'est pas durable. Rien ne remplace le travail. Rien ne remplace une entreprise qui est rentable, qui a des marges, qui peut fonctionner, qui peut investir. Ce n'est pas à coup de finances publiques ou de décrets qu'on donne une perspective aux jeunes. Donc 2030, moi je vois une filière au niveau des services de l'automobile qui aura considérablement évolué, qui sera à mon avis le point fort et peut-être hélas le seul point fort de l'automobile en France, parce que malgré les efforts qui sont faits pour regagner de la souveraineté industrielle, ça prendra beaucoup de temps, et j'espère qu'en 2030, des industriels auront repris pied sur le sol national. Mais on sait que les choses sont très complexes dans l'environnement dont on parlait rapidement tout à l'heure. Donc je pense que la force automobile aujourd'hui, la responsabilité, elle est portée aujourd'hui par les services de l'automobile, par des entrepreneurs de la distribution, de la réparation, des services, de l'entretien, du contrôle technique. Donc il faut raisonner parc, avec un parc dont le mix énergétique va énormément s'élargir en termes d'éventail. Et ne serait-ce que cela, et pour terminer là-dessus, si le parc évolue et il va évoluer de manière forte, on le voit avec la percée de l'hybride, avec l'électrique, avec toutes les conséquences d'ailleurs que cela peut avoir, bonnes et mauvaises, il y a les deux, cette ouverture de l'éventail nous oblige à avoir un éventail de compétences et d'emplois beaucoup plus étendu. Donc il faut que l'exigence normale des chefs d'entreprise auprès des appareils de formation coïncide bien avec ce que l'on est en capacité de faire. Et finalement, si on y arrive, et nous y arriverons, eh bien, les entreprises en 2030 de la profession auront les compétences dont elles auront impérativement besoin pour tenir la dragée haute à un certain nombre d'opérateurs qui veulent faire le métier de tout le monde. Chacun a son métier, que chacun fasse bien ce qu'il a à faire, et surtout, faisons en sorte d'avoir des entreprises prospères qui permettent de donner aux jeunes toutes leurs chances de se développer dans notre pays.
Jean-Paul Lempereur.
Je dirais que Xavier a bien fait comprendre que les métiers de la distribution automobile, je ne parle pas de la réparation parce que là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, mais les métiers de la distribution sont sous pression. On est coincé aujourd'hui, je dirais, enfin, on est subordonné plus exactement au choix du consommateur de demain et au choix du constructeur. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve entre les deux aujourd'hui, pour être très clair. Vous n'avez pas une semaine sans qu'on parle que Amazon pourrait vendre des voitures, que les constructeurs pourraient choisir d'autres moyens pour vendre leurs véhicules. C'est une vraie menace pour nous, qu'on prend très au sérieux. Ça nécessite bien évidemment de bomber le torse et de muscler nos organisations. C'est sûr que si on ne fait rien et qu'on ne prouve pas qu'on est entre guillemets indispensable, qu'on ne donne pas de bonnes raisons, est-ce que les clients continuent à choisir le chemin des concessions pour acheter leur voiture, mais qu'on leur donne l'opportunité de pouvoir l'acheter sur le digital. Donc cette mutation vers le digital, le choix du constructeur qui peut changer, l'évolution technologique des produits, c'est autant de menaces pour nous, mais comme le disait Xavier, nous sommes forts. Moi, j'ai connu beaucoup la crise du Golfe en 93, en 2000, le journal de 20h, Pierre Chazal, qui annonçait que l'automobile allait se vendre comme électroménager dans les grandes surfaces, Auchan, Leclerc, Carrefour, allait vendre des voitures à notre place. Bon, on est 20 ans plus tard, on est toujours là. On nous dit que demain, c'est Amazon. Le plus grand des souhaits, on parle de 2030, 2040, c'est de dire avec beaucoup de fermeté, ben, tout ce qu'on avait dit en 2000, ben, en 2020, on est encore là. Ben, tout ce qu'on dit en 2020, en 2040, on sera encore là. Et c'est nous qui vendrons, c'est nous qui réparerons les véhicules, parce que le client a besoin encore de proximité, il a besoin de, voilà, le digital, certes, ça marche dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous êtes prêt à avoir tous les conseils sur Internet et de mettre votre carte bleue pour acheter une voiture? J'en suis pas totalement convaincu, donc j'ai plein de confiance au métier, mais ça va nécessiter, je le dis clairement, je dirais en live aujourd'hui, mais à l'ensemble des collègues de la profession, il faut muscler nos organisations, il faut les structurer, parce que sinon, bien évidemment, le constructeur peut choisir d'autres alternatives pour vendre ses voitures.
Alors, Laurent Roux, l'automobile, une formation d'avenir ?
Ah ben, nous, on y croit plus que jamais. Bien évidemment, on se prépare à augmenter notre volumétrie en termes de formation sur le Garak. Le Garak a été créé en 1948, il s'en est passé des choses depuis, donc 2030 finalement c'est que demain, donc on sera encore là bien évidemment, et c'est surtout ce que j'espère, c'est et on fait tout pour, et je crois que l'Observatoire de la NFA a travaillé sur des études pour monter jusqu'en 2036 aussi, même si on ouvrait des scénarios maximum où on verse dans le pot des 42 millions de véhicules du parc roulant que des véhicules électriques, il y aura encore tout un savoir-faire en 2036 qu'il faudra avoir sur de l'essence, sur du gasoil, sur de l'hybride, de l'hybride rechargeable, de l'électrique. Donc en fait, il faudra avoir plus de compétences qu'aujourd'hui. Donc un bel avenir encore pour la formation. Et ce qu'il faut surtout, c'est avoir des personnels qualifiés, employables dans les entreprises. Donc, on fera notre maximum, bien sûr, pour suivre aussi les conseils du PIA de la NFA qui travaille sur toute la digitalisation des process et sur tous les nouveaux métiers pour faire du lobbying auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, pour avoir les bonnes formations le jour J à l'heure H pour les professionnels.
Alors, une dernière question qui vient de LinkedIn. Comment pensez-vous adapter les formations et l'après-vente avec l'arrivée et l'évolution du véhicule électrique ou hydrogène qui induira forcément une mutation majeure sur la gestion des pièces détachées, les métiers de demain et sur la profession en général? Je vous laisse démarrer, Laurent.
Alors, pour cela, c'est ce que je dis, on a tout un travail. Le Garak fait partie d'ailleurs d'un des organismes de formation qui travaille avec le PIA de la NFA pour se préparer à ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion, et je trouve que c'est extrêmement bien que la profession se soit engagée dans cette démarche pour réfléchir aux compétences de demain, à faire un certain nombre d'études sur les référentiels existants, ce qu'il allait falloir créer comme nouveaux modules de formation, pour pouvoir se préparer à effectivement à cette mutation au niveau de l'énergétique. Mais je veux dire, des véhicules électriques, on en a. Le véhicule hydrogène, il est déjà rentré au Garak et pas qu'une fois. Donc, ça veut bien dire que tout ça, c'est en train d'évoluer. Et je suis persuadé que on est en train de prendre le bon virage pour mieux former demain par rapport à ces. Alors, il y a toujours un delta, un temps de latence, en fait, effectivement, entre ce que le constructeur, les formations du constructeur, ce que disait M. l'Empereur, c'est tout à fait juste. Et il faut diminuer, en fait, ce temps de latence pour que, justement, dans la formation initiale, on n'ait pas de delta et de retard pour que… faut bien voir quand on rentre un jeune, en fait, je vais utiliser ce terme-là, après sa troisième, eh ben, on l'a pour 3 ans, pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, on voit bien déjà entre les différents mondiales de l'automobile quand ils peuvent se tenir, la mutation technologique qu'il y a sur les voitures. Ça veut dire que quand on les a en formation, faut qu'on soit capable de leur donner un socle de connaissances et puis surtout… une capacité à apprendre. Tu sais, la formation tout au long de la vie, c'est ça la clé de réussite, en fait.
Formation continue.
Tout à fait.
Jean-Paul L'Empereur, vous souhaitez ajouter un mot ?
Non, effectivement, on parlait tout à l'heure de la GPEC en off. C'est vrai que tous ces programmes qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui nous ont permis, et ça il va falloir qu'on se les remette à l'agenda, nous ont permis effectivement de faire évoluer bon nombre de collaborateurs. Maintenant, pour répondre à votre question ou répondre à la question qui est arrivée sur LinkedIn, je pense aussi que le changement ou l'adaptation à ces formations va se faire quand même en douceur. Il y a quand même un parc roulant énorme de thermique. Alors c'est vrai qu'on nous broie un tableau noir en disant dans 3 ans, il n'y aura plus de boulot dans nos ateliers parce qu'on fera des voitures électriques. Bon, attention, il faut tenir compte qu'il y a un parc qui existe. Donc, du thermique, il faudra bien l'entretenir. L'électrique, on sait tous. Regardez aujourd'hui ce qu'on nous dit. Lorsqu'il y a des coups de froid, il faut que la Bretagne et la Normandie réduisent leur chauffage. Donc, imaginez que demain, on ait 30% ou 40% de voitures électriques. Ça veut dire 30 ou 40% de voitures en panne. Donc là, ça va pas aller parce que je pense quand même qu'il faut toute raison garder. La voiture électrique, elle est propre dans les villes et tout. Mais moi, j'entends dire, je te plains dans 3 ans, tu n'auras plus rien dans tes ateliers, c'est fini, il n'y a que des voitures électriques. Non, je pense qu'il faut bien sûr suivre l'évolution technologique. Pour moi, le vrai avenir, ce sera quand même le moteur thermique qui fabriquera de l'électrique. Mais penser que tout va être électrique, non, il faut s'attendre, bien évidemment. Vous savez, le confinement, et je le dis à Xavier, parce que c'est peut-être quelque chose qui a échappé à tout le monde, mais on est en train actuellement de vivre une période extrêmement compliqué qu'on n'a pas vu arriver à cause du confinement. Pourquoi ? Parce que les gens, le télétravail et le confinement font que les voitures aujourd'hui roulent beaucoup moins. Donc le problème, c'est pas la voiture électrique dans nos ateliers là immédiatement, c'est que des gens qui faisaient 35 ou 40 000 km n'ont fait que 20 000 cette année. Donc les gens qui ont des contrats d'entretien et qui doivent venir annuellement pour une révision avec 30 000 km, ils en ont 20 000, ils appellent tous, ils disent « je viens pas ». Mais multiplié par 57% de nos ventes qu'on a fait par abonnement avec des révisions, les gens ne sont pas à l'heure de la révision. Donc, nos ateliers sont vides. Et la vraie préoccupation, et je le dis à Xavier pour que ça remonte aussi au niveau du CNPA et même au niveau de l'État, c'est qu'on a actuellement du mal à remplir nos ateliers pour une simple et bonne raison, c'est que télétravail plus confinement égale voiture qui roule moins, pas d'entretien, pas de collision. Et donc, on a non pas un problème de vente, même si on parle comme on est dans un marché automobile qui remonte à 75. Bon, certes, je dirais, on a quand même eu un tassement des ventes, mais l'après-vente est un vrai souci.
Xavier, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est difficile parce que le mot de la fin, il appartient vraiment aux acteurs. Moi, je suis un facilitateur. Les acteurs, c'est Laurent pour la formation et c'est Jean-Paul pour... parfaire cette formation et le recrutement derrière. Donc moi, je ne suis qu'un modeste facilitateur. Donc le mot de la fin, c'est difficile. Moi, j'ai plutôt envie de dire d'abord vive la mobilité et l'automobile, vive cette semaine, cette grande semaine qui permet aussi de fédérer autour de nous tous les acteurs qui font l'automobile et la mobilité du quotidien. Quant au reste, je serai exactement comme Jean-Paul. Je pense que le confinement ou les confinements, cette année 2020, ça a quand même été une grande claque d'humilité pour tout le monde. Donc, quand on parle de très grandes évolutions, oui, il y en aura. Oui, les technologies accélèrent de manière absolument extraordinaire, mais soyons réalistes. Hein. Il faut se projeter un peu au-delà du périphérique parisien. Il y a la vraie vie, il y a les réalités, et les réalités aujourd'hui, elles sont implacables sur les modèles économiques des entreprises. Donc, j'ai tendance à penser, passons le cap, avec le moins de casse possible, que le gouvernement écoute de très près ce que la profession a à dire en termes de besoin d'accompagnement, en termes d'équilibre, parce que c'est la seule manière dont nous en sortirons dans les prochains mois. Et puis, c'est la seule manière dont on arrivera à se redonner les uns les autres une perspective. La perspective ne peut pas être de passer de confinement en confinement ou de ne pas savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Si un chef d'entreprise ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine ou une école de formation, les choses deviennent quand même très compliquées. Donc, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec cette pandémie. Il faut surtout réapprendre à donner de l'optimisme, du dynamisme dans les équipes, dans les entreprises, dans les écoles de formation. Rester confiant, ça ne veut pas dire être irréaliste, comme je disais tout à l'heure, mais la détermination et l'énergie, je pense, Stéphanie, vous l'avez bien senti, et j'espère que nos auditeurs aujourd'hui l'ont également senti. On est des gens de terrain, des gens déterminés, très au fait, très au contact des nouvelles technologies, de l'innovation, mais aussi de la réalité des territoires, de la réalité des clients, des familles, attentifs à l'évolution de l'homme et des femmes dans nos entreprises. Et je pense qu'on a vraiment tous les atouts au niveau de notre filière pour avancer bien, dans l'ordre, et surtout en amplifiant les messages qu'on a essayé tous les trois de passer ce matin. Donc vive l'automobile, vive l'innovation, c'est le meilleur vaccin à la crise, c'est innover, faire confiance, et puis remettre nos jeunes, nos investisseurs sur une dynamique la plus positive possible malgré les difficultés. Pour les difficultés, le CNPA essaie de s'en charger et on sait avec Francis Bartholomé compter sur des hommes, je le dis, remarquables et des femmes comme Jean-Paul qui mouillent leur chemise, qui font remonter les éléments. La profession, elle a besoin de faire bloc, elle a besoin d'être solidaire, elle a besoin d'être ensemble pour parler beaucoup plus fort et beaucoup plus net auprès de nos différents partenaires et acteurs.
Alors, merci à tous les trois. Juste encore un dernier mot sur la semaine des services de l'automobile et de la mobilité qui se poursuit jusqu'au 6 février. Donc, je crois qu'on peut encore s'inscrire pour assister à des événements dans toute la France. Confirmez-moi si...
Bien sûr. Et j'en profite pour le dire pour la petite vidéo parce qu'on se dit les vidéos, est-ce que c'est vu, pas vu, etc. C'est plus de 2 millions de vues aujourd'hui sur cette simple vidéo que tu as passée tout à l'heure. 2 millions de vues. Alors ça, c'est que le digital, mais rien ne remplace la présence physique. Il y a le monde du digital, y compris dans la distribution, c'est vrai, mais rien ne remplace le contact humain. Donc, déplacez-vous dans nos entreprises, déplacez-vous dans nos centres de formation. Ils ont des histoires à vous raconter, des success stories, et ils ont des propositions à vous faire.
Et déplacez-vous au garage, je crois qu'il y a la Batmobile qui vient bientôt.
Tout à fait, elle arrive.
Qui vient se refaire une beauté au garage, donc ça va être de la peinture, je crois. Hein.
Tout à fait,
partout,
oui.
Partout en France, au garage, il y a Carvin, à Rouen, à Marseille, à Nice, à Strasbourg. Il se passe plein de choses en ce moment sur le terrain. Parlons de nos métiers, soyons fiers de nos métiers.
Merci à tous les trois. Merci Xavier, merci Jean-Paul Emprun, merci Laurent Roux. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les métiers de l'automobile donc sur le site de la SSAM, donc la semaine des services de l'automobile et de la mobilité.
C'est ça.
Merci et bonne journée à tous.
Bonne journée. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Merci Laurent et Jean-Paul.
À bientôt.
À très bientôt.